הדת בני ישראל. ואמרת להם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. השם דידון לא גם משה רבינו, ופרלה ובני ישראל. Alors, parler à Bnei Israël quand ils sont dans la formation, si on peut parler comme ça, de Adat Bnei Israël. Pourquoi est-ce que ce n'est pas marqué simplement Daber el Bnei Israël? Et à Martalem, qu'est-ce que nous ajoute le fait qu'il s'agit ici d'une Adat? Alors, le mot Eda, ici la forme construite, donc sous la forme construite Adat Bnei Israël. La Eda, la première occurrence, je crois, de ce mot de Eda, c'est quand on parle du groupe des Meraglim. Et là-bas, on parle de cette Eda Hara'a Azot, de cette mauvaise Eda. Alors, j'aurais tendance à dire que Eda, évidemment, c'est construit visiblement avec Ayin Dalet. Donc, a priori, ça parle de quelque chose qui a à voir avec le témoignage. Ed, c'est un témoignage. Donc, je dirais, c'est une communauté témoignante. On a déjà vu ça plusieurs fois. Donc, Hachem dit, je veux que tu parles au Bnei Israël, mais il faut qu'il soit sous la forme de Eda, de cette communauté témoignante. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça? Si on regarde la traduction de Onkelès, il lui traduit simplement « parle à Kol Knishta d'Ibne Israël », à toute l'assemblée, d'accord, d'Ibne Israël. Et donc, il n'y a pas de connotation particulière, ils sont tous ensemble. Donc, c'est sûr que dans la traduction, on a perdu quelque chose de ce mot « Eda », qui contient cette racine de « Ed ». Rashi, lui, il dit « Melamed, sheneemra parashazu be'akel ». Ça vient nous enseigner que cette parasha-là, elle a été dite lors d'un rassemblement général, quoi. Akel, c'est le rassemblement général. Donc Rachid est passé de Eda à Kahal. Donc on a aussi perdu, si on peut parler. Donc peut-être que mon interprétation n'est pas juste. Peut-être qu'il ne faut pas tenir compte de cette écriture Ayin Dalet. Bon, ça me paraît un peu étrange. Mais alors Rachid, lui, il nous explique pourquoi il fallait tout le monde. Parce que Mipne Sherov, Goufei Torah Tluinba. Pourquoi? Parce que des choses essentielles de la Torah dépendent de ce qui est dit dans cette paracha-là. Donc, en soi, c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il y a dans la Torah une hiérarchie, évidemment, il y a des choses qui sont plus ou moins importantes. D'accord? Les choses qui sont dites ici, on va en voir une partie, elles nécessitent d'être dites à la collectivité d'Israël. Alors, qu'est-ce que ça change que ce soit dit au Bnei Israël, ou bien que ça soit dit au rassemblement des Bnei Israël? C'est quoi ça? Quand ils se rassemblent, ça voudra dire qu'il y a une relation entre eux. D'accord? Un peu, c'est le mot Knishta qu'utilise Onkelès dans son Targum, là. C'est le même mot que celui que Esther a utilisé quand elle a dit à Mordechai, la première chose qu'elle lui a dite, c'est l'er knos, rassemble les Bnei Israël. Donc, cette idée de rassembler, ça fait référence, mais évidemment, au fait qu'il y a des relations particulières quand on les rassemble. Du coup, ils se tissent des relations même de proximité physique qui n'existent pas obligatoirement quand on parle au Bnei Israël en général. Alors peut-être qu'on peut dire un peu plus et dire que Effectivement, quand ils se rassemblent et ils témoignent, parce que les Bnei Israël vont témoigner, on va témoigner par exemple, quand on dit le Kiddush, on témoigne qu'Hachem a créé le monde en 6 jours. Et là, il y a donc des situations dans lesquelles ce que nous faisons a une valeur de témoignage dans le monde. Alors, ça c'est ce que Rashi dit. Alors maintenant, le contenu de ce qu'il va leur dire, Kedoshim Tiyu. Donc Tiyu c'est soyez ou serez, c'est impératif. Kedoshim. Alors le mot Kadosh, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire ici. Et la justification de l'obligation d'Ebné Israël d'être Kadosh, c'est que Hachem dit ki kadosh ani Hachem Elokechem. Moi qui suis votre Dieu, je suis kadosh. Et donc vous ne pouvez pas être mon peuple si vous n'êtes pas comme moi kadosh. Il faut qu'il y ait une. On en a bien parlé au moment de Pessah. Il faut qu'il y ait entre le clan Israël d'un côté et Akadosh Baruch Hu de l'autre côté, bien sûr pas une identité les choses, mais il y a des points fondamentaux, si vous voulez, qui les relient, toujours toutes choses non égales par ailleurs. Quoi. Alors, vous devez être Kadosh parce que moi, Hachem, votre Dieu, je le suis. Rashi dit, Kdoshim Tiyu, alors il traduit, et vous, Prushim Mina Arayot, ou Mina Avera. Alors, Kadosh, la traduction qu'on utilise en général pour dire Kadosh, la sainteté, si vous voulez, c'est une dimension de séparation. Mais Kadosh, quand on est séparé, séparé pour être affecté à un certain travail, à un certain statut, etc. Donc, il y a une idée de séparation, mais donc la séparation, elle existe de façon complètement profane. Deux choses sont séparées, si elles sont sur la table, là, ici, mais elles sont séparées parce qu'elles ne se touchent pas. Donc, elles sont séparées par un espace vide entre elles, enfin vide ou... où il y a de l'air entre les deux, et les deux choses ne se touchent pas, la Kdusha. Et la Kdusha d'Hachem, c'est qu'il est, lui, radicalement séparé. Il n'a rien à voir, si on peut parler comme ça, avec le monde. Mais même quand il s'intéresse au monde, même quand il accepte d'être Elokeinu, notre Dieu, il reste encore complètement séparé. Et nous avons l'obligation d'être séparés. Et nous, on va être séparés de quoi? C'est quoi? On va être séparés, on est séparés des autres peuples? Doshim Tiyu, ça veut dire ne vous assimilez pas? Alors, ça pourrait être, n'est-ce pas? Marquez la différence, marquez... Alors, Rashi dit quelque chose de... Bon, c'est évidemment, il cite ici Chazal. Et vous, Prushim Mina Arayot. Séparez-vous des Arayot. Alors, Arayot, c'est ce fameux mot de Herva, dont on ne sait pas non plus exactement comment il faut le traduire. Mais dans la paracha d'Achremot, on a vu toute une liste de personnes. Donc, c'est dit, ça s'adresse à un masculin, et on lui donne des ordres concernant les femmes, mais c'est exactement symétrique. Alors, il y a une liste de harayot. A priori, il y a deux sortes d'harayot. Alors, si je ne traduis pas harayot, mais je dis, grosso modo, ce sont des femmes qui sont interdites. Alors, on va voir. Il y a des femmes qui sont interdites à un homme un homme a des femmes qui lui sont interdites, ce sont les femmes qui lui sont très proches. Sa mère, sa sœur, éventuellement un peu un cran plus loin, la grand-mère, la petite fille, etc. Ça, c'est la famille très proche, les chers, les gens qui ont un lien de famille, un lien consanguin quasiment. Et puis, il y a des proximités, des harayot, des femmes qui sont interdites parce que elles sont alliées, c'est-à-dire la proximité, elle s'est faite par mariage. On a des femmes qui sont interdites parce qu'elles sont mariées à des gens qui sont proches. C'est-à-dire, la femme du frère de mon père, elle n'a pas de lien physique avec moi, mais étant donné qu'elle en a un conjugal avec le frère de mon père, donc avec mon père, donc par alliance, j'ai aussi un lien avec elle. Donc ça, c'est un deuxième type de harayot. Il y a aussi des femmes interdites qui sont aussi harayot, mais qui ne sont pas aussi sévèrement sanctionnées, qui viennent par exemple de la kdusha d'un Kohen ou d'un Kohen Gadol. Le fait qu'il y a des femmes qui sont interdites à un Kohen parce qu'elles sont divorcées. Et il y a des femmes qui sont interdites à un Kohen Gadol parce qu'elles sont divorcées ou veuves. Et puis il y a des gens qui sont interdits parce qu'ils sont mamzerim, ils sont le fruit, par exemple, d'une relation avec une erva. Donc, et l'enfant en question, il est mamzer, donc lui, il ne peut pas épouser quelqu'un du peuple juif, il ne peut épouser que quelqu'un, une guillorette ou un guerre, quelqu'un qui est venu de l'extérieur, qui n'est pas concerné par ce genre d'interdit-là. Donc, ici, on nous dit prushim. Bifrosh, ça veut dire se séparer de nouveau. C'est un autre mot pour dire séparer. Donc, soyez bien séparés de toute harayot. Qu'est-ce que c'est une erva? A priori, c'est un interdit. C'est une femme qui est interdite. Et si on a un homme et une femme interdites ont un rapport, ils ont fait une avera, les deux. Pourquoi on nous dit encore, Rachidi, mais séparez-vous aussi mina avera. Séparez-vous de la avera. La avera, c'est n'importe quel... Ah, voilà, il y a du renfort. La avera, c'est n'importe quelle avera. N'importe quelle chose interdite. Que ça veut dire aussi, séparez-vous, je ne sais pas, des graisses interdites ou des nourritures interdites. Ça veut dire, séparez-vous aussi de, je ne sais pas, des gens qui mettent pas de parapet sur leur toit. C'est quoi la vera dont on parle ici? Alors, a priori, ça contient aussi les harayot. Mais c'est plus large que harayot. C'est comme si il y avait donc, par rapport à la kdusha, la première démarche, c'est de se séparer des harayot. Après, de façon générale, il faut se séparer de toute avera. Donc, il y a quelque chose de particulier dans les harayot. Alors, c'est un peu désagréable de parler toujours d'harayot sans définir ce que c'est. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne sais pas exactement comment il faut le traduire. Mais ces derniers temps, je me trouvais bien avec la traduction suivante. Quand les frères de Yosef sont arrivés en Égypte, acheter du blé. Yosef les a traités d'espions et il leur a dit, il a traité d'espions parce que comme ils sont entrés chacun par une autre porte en Égypte, on avait l'impression que c'était vraiment des espions. Mais eux, ils sont entrés chacun par une autre porte parce qu'ils recherchaient Yosef. Ils sont arrivés en Égypte, ils se sont dit, on va chercher Yosef. Mais bon, alors Yosef probablement savait très bien pourquoi ils étaient entrés chacun par une autre porte, mais dans la mise en scène qu'il leur a faite, là, il les traitait d'espions. Et il leur a dit que vous êtes venus voir Ervat Haaretz, la Erva de la terre, du pays. Donc, les espions, quand ils viennent espionner, ils viennent voir comment on peut, par exemple, pénétrer dans ce pays. Si on veut faire la guerre à ce pays, il faut trouver par où il faut entrer dans ce pays. Donc, d'une certaine manière, c'est comme si on allait chercher la faille dans la défense de ce pays, ou la faille dans ce pays. Donc, peut-être que Herva a ça à voir avec la notion de faille. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une ouverture possible qui est interdite dans certains cas, mais c'est une... De même que dans un pays, il peut y avoir des failles qui sont absolument naturelles. Elles viennent de, je sais pas quoi, du fait qu'il y a ici une rivière ou qu'il y a ici une montagne, etc. Et donc voilà, il y a des passages qui se prêtent effectivement à l'envahissement et qu'il faut évidemment renforcer pour empêcher l'ennemi d'entrer. La notion de faille ici, elle parle effectivement de quelque chose qui est absolument nécessaire. Il est absolument fondamental que les femmes soient conçues comme elles le sont, si on veut que ça fonctionne comme on a l'impression, comme ça fonctionne de façon standard. Mais du coup, il y a une faille, il y a une ouverture possible. Et donc, ce sont des ouvertures qui sont interdites dans certains cas, comme je vous l'ai dit. Alors peut-être que c'est ça, Arayot, c'est la notion de faille. La notion d'ouverture qui est nécessaire, parce que c'est comme ça que les êtres humains sont fabriqués, mais qui sont une certaine faiblesse, en fait. Donc, Rachid dit, « Et vous prouchez mina arayot ou mina avera. » Et donc, maintenant, Rachid continue. Et il dit, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. מה שהיא דיא, partout tu trouveras, on a mis une barrière, justement devant cette faille, pour empêcher l'accès direct à cette faille. On a mis une barrière, un guéder. Donc quand on met un guéder par rapport à un rayot, comment c'est? Le guéder peut être, par exemple, on va interdire le yichoud de telle sorte qu'on n'en arrive pas à une relation intime entre cet homme et cette femme qui, normalement, n'ont pas le droit d'avoir cette relation intime. Donc, on a mis en amont quelque chose qui va leur rendre bien difficile de transgresser l'interdit des harayot puisqu'ils n'ont pas le droit d'être seuls, enfin les deux, seuls ensemble, dans cette pièce, parce qu'il y a un din de Ihud. Ça, c'est une barrière. Rachid dit que quand tu vois qu'il y a une démarche pour mettre une barrière dans les problèmes d'Arayot, sache qu'on est dans un domaine de Kdusha. C'est une démarche de Kdusha. Alors Rashi donne des exemples. Il dit Isha Zona Vachalala. C'est-à-dire un Kohen, il ne peut pas épouser une Isha Zona ou Chalala. Bon, sur Chalala, on peut discuter. Et on dit Ani Hashem Mekadishchem. Donc on voit ici, on a mis une barrière. Le Kohen ne peut pas avoir de rapport avec une Isha Zona. Et la barrière, c'est pourquoi il faut mettre la barrière qui ani Hashem mekadishrem, parce que moi, en vous donnant cette interdit là de d'épouser une zonava halala pour le Kohen, je vous sanctifie, je crée des séparations par rapport à des interdits. Bien. Alors maintenant, la première chose qui nous est donnée, en fait, on te dit, voilà, soyez saint, mais c'est général. Comment est-ce que, c'est quoi être saint exactement? Faire des barrières pour un rayot. Et alors, et c'est tout. Alors, ça commence autrement. Ish, imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, il doit les craindre. Veshabtotai tishmeru, ani Hashem Elokechem. Et mes Shabbatot, vous les garderez, moi, Hashem, je suis votre Dieu. Rashi, Ish, imo ve'aviv tiraou. Un homme, son père et sa mère, pardon, sa mère et son père, vous voyez, c'est dans l'ordre ici. Dans les Aseret Hadibrot, c'est marqué Kaved et Avicha et Imecha. Le père d'abord, la mère ensuite. Ici, la mère, elle est citée d'abord. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, les commentateurs, en général, ils expliquent les choses en disant, naturellement, un homme, il a plus de yira, de crainte de son père que de sa mère. Et par contre, il est plus proche peut-être de sa mère que de son père. Alors la Torah, elle vient nous obliger justement sur ce sur quoi on ce qu'on ne fait pas obligatoirement naturellement. Quand il s'agit de donner du kavod, je donne plus facilement du kavod à la mère qu'au père. Alors la Torah, elle dit, Kaved et Avicha v'etimecha. Et la crainte, plus facilement la crainte du père que de la mère. La Torah, elle dit, crains, enfin, craignez la mère et le père. Kol echad mikem, tiraou aviv veimo, zeu Alors, Rashi, il amène d'abord le pshat. Il dit, ça s'adresse à chacun d'entre vous, les Israël. Il faut craindre la mère et le père. C'est le pshat. On va regarder ce que dit ensuite Rashi, puis on reviendra éventuellement sur ce pshat. Ou Midrasho, et le Midrash sur ce verset, c'est Ein li ela ish. Dans le verset, c'est marqué un homme, sa mère et son père, ils craindront. Donc, a priori, on a l'impression que cette obligation, elle s'impose seulement aux hommes, aux enfants mâles. Isha minayin, d'où est-ce qu'on sait qu'une fille, par rapport à sa mère et son père, elle a aussi l'obligation de les craindre? Parce que chez Omer, tira où? D'accord? Normalement, le sujet du verbe tu craindras, c'est ish, c'est un singulier. Pourquoi est-ce qu'il est ici au pluriel? Tiraou. Arekan. Et donc, voilà, ça concerne les deux, le garçon et la fille. Mais seulement, à ce moment-là, la question se pose. Ish. Pourquoi tu dis ish? Ish, c'est une connotation très masculine. Ish, c'est le guerrier, etc. Pourquoi tu utilises ish si ensuite c'est pour dire que la femme aussi, la fille aussi, elle a les mêmes obligations. Shaish, sipek beyado la sot, aval isha reshuta cherim aler. Pourquoi est-ce que l'obligation, elle est plus fortement dite sur l'homme? Parce que l'homme, il a les moyens d'appliquer la mitzvah. Le problème d'une femme, c'est quand elle se marie, elle a aussi une autorité qui est la résultante de son mariage. Donc il y a aussi un reshout du mari sur la femme. Et donc la question à se poser, peut-être qu'à cette femme, on ne peut pas lui dire tu dois craindre, tu dois te comporter donc d'une certaine manière par rapport à tes parents, parce que si ça se trouve, son mari ne le lui permet pas. Donc on entre dans les problèmes, est-ce qu'un mari a le droit, etc. Mais a priori, on voit que la situation, elle a l'air d'être telle que il y a d'autres, comme Rachid dit d'autres, il dit pas, il y a d'autres, il y a d'autres autorités sur cette femme qui éventuellement ne lui permettent pas de craindre la mère et le père. Donc c'est pour ça que c'est marqué Ish. Parce que là, évidemment, les deux, ils sont astreints, mais lui, il ne peut pas se défiler en disant je ne peux pas parce que X, Y, Z ne veut pas. Lui, il est obligé parce qu'il en a les moyens. Et dans certaines circonstances, la femme, elle peut très bien dire, mais moi, je veux bien tout ça, mais je ne peux pas parce que mes obligations conjugales, etc., m'en empêchent. On a une remarque de la part dans celles qui ont le stone, le Chumash stone, ils ramènent le Alchir. L'Alchir, c'était un, mon cher Alchir, c'est un grand maître de l'époque de la grande époque de Tzfat, c'est-à-dire l'époque où vivait à Tzfat le Arizal, le compositeur Shlomo HaKabetz, le compositeur du Lecha Dodi, le Beth Yosef, beaucoup de Ramat Cordovero, etc. Et l'un d'entre eux, c'était le Moshe Alchir, il fait un commentaire sur la Torah. Et dans son commentaire, il explique pourquoi est-ce que on a besoin de cette Adat Bnei Israël, pour réunir tout le monde, pour dire que les mitzvot s'appliquent à tous de façon identique. C'est-à-dire que on n'a pas divisé le monde en gens, en personnes qui doivent être des saints et les autres, bon, ils peuvent se contenter de faire ce qu'ils veulent. D'accord? Ça, tout le monde a les mêmes obligations. Il n'y a pas d'obligation spéciale pour celui-ci ou celui-là, dont quelqu'un qui aurait le même âge, la même situation, etc., serait dispensé. Donc, ça veut dire que la Kedusha, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Bon, alors, voilà le premier commandement qui est donné dans le cadre de la Kedusha. Et là, on pourrait s'attendre à ce que vous posiez la question, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Kedusha? Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec la Kedusha? Pour respecter sa mère et son père. Ok, d'accord. Mais c'est quoi? C'est un problème de Kdusha? Gemara, elle rapporte des exemples d'idolâtres qui étaient très respectueux de leurs parents, etc., quitte à éventuellement perdre beaucoup d'argent de ce fait. Donc, pourquoi est-ce que qu'est-ce que ça a à voir avec la notion de Kdusha? Alors, à partir du moment où on dit que A a des obligations par rapport à B, c'est-à-dire on crée une différence, on crée une hiérarchie, et donc ça les sépare, ça veut dire que tu es obligé de tenir compte de cette hiérarchie. Et ça fait partie de la Kdusha. Tout le monde est astreint à la Kdusha. Mais tout le monde n'exprime pas la Kdusha de la même manière. L'expression de la Kdoucha élémentaire pour un enfant, c'est de craindre sa mère et son père. C'est-à-dire de ne pas leur couper la parole, de ne pas prendre leur place, etc. On voit par exemple dans l'histoire de quand Eliezer est allé discuter avec Bethuel et Lavan pour obtenir que Rivka devienne la femme d'Itsrak, on voit que Lavan y parle avant son père. On a vu dans le texte qu'il y a le père, il y a Bethuel qui est là, mais celui qui parle, c'est Lavan. Donc lui ne respecte pas son père. Dans la Torah, on n'a pas le droit. On ne peut pas parler à la place de son père. Et même dans certaines circonstances, on ne peut pas parler en présence du père si le père ne vous permet pas de parler. Ou la mère, d'ailleurs, c'est la même chose. Alors ensuite, Rashi s'arrête sur ce que je vous ai cité. Pourquoi est-ce que ici la mère est citée avant le père? Donc il donne l'explication qu'on a donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que on a fait une hiérarchie, on a mis l'enfant et au-dessus on a mis ses parents. Et du coup, évidemment, la question se pose, puisque les parents ont une autorité sur l'enfant, la question va se poser de jusqu'où va cette autorité? Est-ce que les parents peuvent demander n'importe quelle forme de respect ou de kavod de leur enfant? Alors, la réponse, elle est oui, ils peuvent demander beaucoup, mais il y a une limite qui est Shabtotai. Mes Shabbatot, c'est-à-dire le père et l'enfant, enfin les parents et l'enfant sont astreints au Shabbat. Donc un parent ne peut pas demander à un enfant, au titre du Kavod, de la Yira, d'aller être Mechalel Shabbat pour lui. Parce que le père lui aussi, le père et la mère sont aussi astreints au Shabbat, et donc effectivement, le Shabbat, c'est la limite du pouvoir des parents sur l'enfant. Ça ne va pas au-delà. Pas transgresser le Shabbat pour ça. C'est pour ça que le pasouk dit « Et v'et shabtotai tishmoru ani Hashem Elokechem ». Alors il y a ici un célèbre Ramban qui dit que, si vous voulez, d'abord il faudrait poser la question, en fait, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il faut respecter son père et sa mère? Mais on a déjà une mitzvah, le kavod il est mis déjà dans un Seret HaDibrot, et la Yira aussi, donc pas dans... Donc, on a déjà cette obligation de craindre sa mère et son père et de donner du kavod à son père. Pourquoi c'est répété ici dans le cadre de la Kdoucha? Qu'est-ce que la Kdoucha vient faire dans cette affaire? C'est les mitzvot, je les ai déjà. Alors ici, il y a un Ramban qui dit que en fait, les lois de la Torah sont des lois qui concernent toutes sortes de sujets, mais on peut très bien être en accord avec toutes ces lois et néanmoins se comporter de façon détestable, en quelque sorte. On peut arriver dans le cadre de la loi, c'est-à-dire, il peut devenir un glouton, etc., en ne mangeant que des choses absolument permises avec les meilleurs herchérimes du monde. Il n'en sera pas moins un glouton. Ce ne sera pas moins une façon détestable de se conduire. On peut très bien, dans le cadre de son couple, se conduire en respectant la loi, c'est-à-dire respecte les lois de Nida, de Ziva, etc. Mais c'est n'importe quoi. Toutes les formes de débauche sont permises. Et c'est ça que la Torah vient dire. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment formulable différemment. On donne les mêmes lois, mais dans un cadre où on dit, attention, il faut rechercher la Kedusha. C'est-à-dire se séparer, y compris les choses qui sont dans le domaine du permis. Décider que j'ai la permission d'aller jusqu'à cette limite-là, je décide de ne pas dépasser une limite que j'ai fixée en amont de celle-là. Disons, pour le dire numériquement, voilà, j'ai décidé que je ne mangerai que une part de telle et telle chose, bien qu'en réalité, la halakha, si c'est kasher, je peux en manger 3, 4 ou 5. Mais en manger 3, 4 ou 5, c'est de la gloutonnerie, et la Torah ne veut pas ça. Ça, c'est ce que Ramban dit. Donc, ça veut dire qu'il y a ici une chose un peu particulière. L'expression c'est Kadesh et Atzmecha ou Atzmecha bemutar lach. Sanctifie-toi dans le domaine du permis. Kadesh Atzmecha bemutar lach. Sanctifie-toi, donc ça veut dire sanctifie, tu te sépares de choses qui sont permises. Tu restes, tu vas pas jusqu'à l'extrême limite de ce qui t'est permis. Donc ça, c'est déjà une démarche dont on peut dire qu'elle devient personnelle. Parce que quelqu'un peut considérer que dans le manger, dans le boire, dans les relations conjugales, etc., chacun peut mettre la limite où il veut en réalité. Il est dans le domaine du permis. Mais on te dit, mais une barrière. Ça ne va pas jusqu'à l'extrême limite. Et c'est ça que Kedoshim Tiyu, ça que la Torah veut. Bon, c'est intéressant parce que c'est un imprescrit, en fait. C'est pas prescrit, on te dit pas, tu peux pas dépasser, j'ai pas une bouteille par repas, tu peux pas dépasser, je sais pas, tant et tant de grammes de viande, tant et tant de, je sais pas, de fromage, etc. C'est pas dit en ces termes. C'est toi qui dois fixer la barre. Donc les Kedoshim Tiyu, c'est-à-dire on parle à tout le monde en même temps, on leur dit vous avez tous l'obligation, mais en réalité chacun entend les choses à sa manière. On peut pas le lui reprocher. Simplement, on veut qu'ils mettent des barrières. Ne te laisse pas aller. Ici, on a encore un point à détailler, qui est que la Kedusha qui est demandée, elle est mise en rapport avec la Kedusha d'Hachem. Vous devez être kadosh parce que je le suis, dit Hachem. Donc on pourrait se dire, ok, alors maintenant dans l'exemple qui nous est donné, le premier exemple de la Kedusha, c'est les relations de l'enfant avec ses parents. Donc il faudrait aller dans le même sens et dire, il faut comparer la relation de l'enfant avec ses parents à la relation de l'enfant ou de la personne avec Hachem. De même que Hachem est Kadosh et par conséquent ça crée des obligations à l'homme, de la même manière, pour être Kadosh, il faut considérer que le fait d'avoir des parents, ça crée des obligations qui sont analogues aux obligations qu'on a par rapport à Hachem. Alors ça, en général, la Gemara, ici c'est un peu plus facile que partout qu'à d'autres endroits, c'est que il y a cet enseignement qui dit que il y a trois associés dans la création de l'homme. Il y a Hachem et les parents. Et par conséquent, on comprend ici que le kavod qui est donné aux parents soit lié au kavod qui est dû à Hachem, et jusqu'au point que, quand je vous trouve à dire, s'ils honorent leurs parents, c'est comme s'ils m'honoraient moi, puisque ils honorent deux des trois associés, donc ils honorent les associés leurs concepteurs, en fait, ceux qui ont fait que la personne est venue au monde. Donc, l'honneur des parents. Et la deuxième chose, l'idolâtrie. Altifnu el a elilim, ve Elohim asecha lo ta'asu lachem, ani Hashem Elokechem. Ça veut dire ne vous tournez pas, au sens de n'allez pas les consulter, les idoles et des dieux de métal, vous n'en ferez pas, je suis Hachem, votre Dieu. La Torah, déjà, dans un certain Dibrot aussi, elle a déjà interdit l'idolâtrie. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a de spécial ici dans cet interdit-là? Rashi dit, Altifnu el ha'elilim le'ovdam. C'est-à-dire, ne servez pas les idoles. Ok? Et elilim lachon el klo chashub. Donc en vérité, elilim s'est construit sur Aleph Lamed, et Aleph Lamed, si on le met dans le bon ordre, en ce qui concerne les idoles, c'est rien, c'est du rien, c'est l'eau. Veloé Masecha. Alors, Trilatan elilim hem. Au départ, ces lieux de métal sont des divinités, des idoles. Vimata pone achareem sofra la sotan elaout. Au départ, c'est pas vraiment une divinité. C'est cette histoire de, ce sont des dieux, en fait. Alors, de nouveau, ce problème-là, c'est quoi, ça? Non, c'est pas ça. Ça finit par devenir, vous prenez l'habitude et ça devient des divinités, vous les traitez comme des divinités. Nota sous la chem, vous ne vous en ferez pas. Et vous n'en ferez pas ni pour d'autres, ni pour et d'autres n'en feront pas pour vous non plus. Bon, alors bon, Rachid discute, est-ce que on a besoin d'entrer dans le détail? Bien sûr, quoi. On ne peut pas en faire pour soi, ni pour les autres ne peuvent pas en faire pour nous. Shlamim l'Hashem. Et quand vous apporterez des korbanot shlamim, c'est-à-dire des korbanot dont vous allez manger la viande pour Hashem, lirtzonchem tisbachu. Vous pourrez le faire pour votre plaisir, c'est-à-dire autant que vous voulez. Yom zifrachem yachel umimachorat. Et ce genre de corban, on doit le manger le jour où on l'apporte et le lendemain. Et s'il en reste, le troisième jour, il faut le brûler. Par contre, s'il en reste et qu'on ne le brûle pas, qu'on venait à le manger, c'est pigoule et donc ça pourrait dans aucune façon être accepté comme manger la viande d'un corban. Et celui qui le mangerait portera sa faute parce qu'il a profané ce qui est saint pour Hachem. Et donc il est chayav karet. Il sera retranché, lui, de son peuple. Donc c'est une faute extrêmement grave. Donc en fait, en passant, on nous dit la chose suivante. Si vous voulez manger de la viande, vous pouvez toujours apporter un korban Hashem, un korban shlamim. Il y a en gros deux types de korbanot. Il y a les korbanot qui sont entièrement consumés. Ça, c'est une hola. Et puis il y a les korbanot dont la viande est mangée. Et là, il y a deux situations. Ou bien c'est un khatat, c'est mangé par les kohanim, ou alors c'est un shlamim, c'est mangé par les propriétaires. C'est juste que ça a transité par le misbéar, c'est comme s'ils mangeaient de la haute table en fait. Ils mangeaient quelque chose qu'il leur est donné par Akadosh Baruch Hu. Oui, ils l'amènent comme korban, et ensuite ils ont le droit de le manger, et c'est une mitzvah de le manger. Donc, il faut veiller à ne pas tomber dans les pièges de l'idolâtrie, parce qu'on s'habitue, etc., à des comportements, et ensuite, sans s'en rendre compte, on tombe dans une véritable idolâtrie. Bon, et ensuite, il y a toute une suite de mitzvot qui font partie de la Kedusha. Je voudrais avancer un peu. Je voudrais venir sur un passouk célèbre. Juste que 18, je crois. Alors, vous prenez au chapitre 19, le verset 18. Le verset 18 dit L'oticom velotitor. Donc, c'est un interdit de te venger, de garder rancune. Et bene amecha par rapport aux gens de ton peuple. Et dans la foulée, dans le même verset, donc, ve'aftal reacha kamocha, ani Hashem. J'aimerai ton prochain comme toi-même, Ani Hachem, je suis Hachem. Alors, le loticom, le lotitor, vous connaissez, c'est celui qui hier, il a demandé à son voisin de lui prêter sa tondeuse électrique. Et l'autre lui a dit, mais justement, elle est en réparation, j'en ai pas, je sais pas quoi. Et le lendemain, c'est le propriétaire de la tondeuse qui vient et qui dit, tu peux me prêter ta hache? Alors il lui dit, je te la prête, je suis pas comme toi qui m'a pas prêté la tondeuse électrique hier. Donc ça, on n'a pas le droit non plus. Pas seulement qu'on n'a pas le droit de ne pas lui prêter puisqu'il m'a pas prêté, même on peut même pas lui prêter en faisant remarquer que je suis quand même pas comme toi, toi, t'es pas sympa, tu m'as pas prêté. Alors ça, c'est un des psukim les plus connus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva, ze klal gadol batora. Là-dessus, Rabbi Akiva dit, ça, c'est une règle générale, une très grande règle générale dans la Torah. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On va essayer de le voir. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? D'aimer son prochain comme soi-même. Rachid dit seulement que il ne nous dit pas du tout comment il faut aimer son prochain. Il dit seulement que c'est un principe fondamental de la Torah. Alors, tout le monde connaît la traduction ou l'interprétation de Hillel. Hillel, lui, il a dit ça sous forme négative. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Cette idée d'aimer son prochain comme soi-même, c'est utilisé dans des situations très étranges. Il y a une halakha qui dit que une des peines de mort, par exemple, une des peines de mort, je répète, les peines de mort dans la Torah, elles sont, bon, elles sont explicitées, mais on ne sait pas très bien dans quel cas on peut les appliquer, parce que les conditions pour qu'on puisse les appliquer sont tellement restrictives que ça fait pratiquement de ces peines de mort des peines complètement académiques, quoi. Alors ça n'empêche pas de devoir réfléchir sur la façon dont on le ferait, etc. Et une des façons, c'est il y a une peine de mort qui s'appelle strangulation. Et là, la Torah, elle dit, mais pour cette strangulation, on va prendre un tissu très très dur et on va étouffer la personne avec en entourant son cou et en fermant, quoi. Et là-bas, la Torah dit, mais attention, là, si tu prends un tissu comme celui-là et que tu serres, ça va blesser la personne. Un tissu qui est très agressif et ça va blesser la personne. Or, la personne, elle a été condamnée à mort, elle n'a pas été condamnée à être torturée. Donc, il faut mettre à l'intérieur, pour protéger la peau délicate de celui qui va mourir, on va mettre un foulard très doux. D'accord? Et on va mettre le tissu rêche, dur, etc., par-dessus le foulard, de telle sorte que la peau ne soit pas agressée. Et ça, c'est pourquoi? Il y a le même une halakha qui dit aussi que en fait, quand on lapide quelqu'un, si on le lapide habillé, il mettra plus de temps à mourir et donc il va souffrir inutilement. Donc il faut le lapider complètement dénudé. Mais s'il s'agit d'une femme, alors on ne lui impose pas d'être exposé dénudé. Parce qu'il y a une espèce de balance qu'on fait entre qu'est-ce qu'elle préfère, je veux dire. D'accord? Elle a pas perdu, elle a, elle n'a pas été condamnée à être dégradée, si vous voulez, de ce point de vue-là, exposée de façon dégradante. Bon, mais on comprend bien que le fameux Ve'ahavta le'reicha kamocha, c'est aussi quelque chose d'un peu particulier dans la mesure où on a toujours la fameuse question qui est de savoir l'histoire de la gourde. Vous avez deux personnes qui sont perdues dans le désert et ils ont une seule gourde. Et il n'y a pas de quoi sauver les deux en buvant si tous les deux boivent à la même gourde. Donc la question qui se pose, c'est celui qui a la gourde. Est-ce qu'il est obligé de la donner à l'autre, de la partager? Est-ce qu'il la garde pour lui? Donc ça, ce sont des questions standards. Et puis, évidemment, quand on dit tu aimeras ton prochain, le problème, c'est évidemment savoir qui est mon prochain. Alors, vous vous souvenez, on a dit, j'ai ramené du Gaon de Vilna, que dans la Torah, le mot réa ne concerne jamais un idolâtre, un non-juif. Il concerne obligatoirement un juif. Donc ici, on parle d'un juif. Mais est-ce qu'il en est d'un juif qui est un renégat? Est-ce que lui aussi, je dois l'aimer? Alors, bon, c'est. La Torah, elle vient a priori nous dire qu'on doit aimer même ceux qui ne sont pas spécialement aimables. Il faut les aimer quand même. Certains veulent dire que il faut aimer l'autre sans s'occuper de savoir ce qu'il est, etc. C'est un autre juif. Point barre. Il est ton réa, il est ton prochain. Ah, il ne se conduit pas obligatoirement comme il devrait. Limite, c'est pas ton problème. Enfin, disons, dans ce cas-là, c'est pas ton problème. Bien sûr, cette obligation d'aimer son prochain comme soi-même, le comme soi-même, il est un peu compliqué à comprendre. C'est quoi le comme soi-même? Comme tu t'aimes toi-même. Donc il faut. Il y a une façon de lire. On pourrait dire Ve'ahavta le'reicha. C'est pas tu l'aimeras ton prochain kamocha, comme tu t'aimes, mais tu l'aimeras ton prochain parce qu'il est kamocha. Parce que donc, à tes yeux, il est exactement comme toi. La raison pour laquelle il faut l'aimer, c'est qu'il est à l'image d'Hachem, il fait partie du peuple d'Hachem, point barre. Il est comme toi. Toi, tu fais partie du peuple d'Hachem, tu es à l'image d'Hachem, ben lui aussi. Et à ce titre-là, tu dois l'aimer. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut considérer que tout dans le monde exprime, tout dans le monde dit, exprime que le monde a été créé par Hachem. Quand vous avez un vêtement, le Meshech Chochma, il explique comme ça. Vous avez un vêtement. Il a été composé, il a été cousu à partir de plusieurs parties du vêtement. Donc, cette composition-là, vêtement, elle dit quelque chose de celui qui a composé le vêtement. Bon, c'est monsieur machin ou madame machin, elle ne compose pas le vêtement de la même manière, elle ne va pas le coudre de la même manière, elle ne va pas choisir des couleurs de la même manière, etc. Et donc, ça reflète celui qui a fait le travail. Et donc, tout le monde doit être considéré, tout dans le monde, doit être considéré comme reflétant le Créateur. Et en particulier mon prochain. En particulier mon prochain, lui aussi, il reflète le Créateur. Et c'est comme ça que je peux l'aimer. De façon absolue, quoi. Je l'aime. Parce qu'il reflète le Créateur. Ah, il se conduit pas bien, ça c'est une autre affaire. C'est-à-dire, la question se pose, c'est est-ce que quand quelqu'un se conduit, un juif se conduit mal, je veux dire très mal, est-ce qu'il perd sa qualité de Tselem Elohim, quoi? Est-ce qu'il perd sa qualité d'être à l'image d'Hachem? Ou non, il ne la perd pas, et il la profane, mais il ne la perd pas. On profane quelque chose, on a, d'accord, on l'a rendu profane, mais c'est pas que il a complètement perdu, il y a là une profanation. Et ça, semble-t-il, ça n'est pas une raison de ne pas l'aimer, quoi. Ça, c'est un peu compliqué, la vérité.
C'est difficile, c'est ça.
Pardon?
Excusez-moi, madame, je pourrais parler toute seule, je dis c'est très
D'accord, non,
difficile.
mais alors, c'est bon. Donc, ça, c'est cette idée de devoir aimer quelqu'un, l'obligation. Alors maintenant, je voudrais juste. Rachid, il a ramené une opinion, Rabbi Akiva. Il n'a pas ramené une autre opinion qui dit que non, pas du tout. Ici, c'est simplement le Klal Gadol, c'est. Le grand klal de la Torah, c'est Zé Sefer Toldot Adam. C'est le verset qui dit que le Sefer Torah, c'est l'histoire de l'homme, de l'humanité. C'est ça le grand klal de la Torah. Rabbi Akiva, il dit ici que ce principe-là, c'est un klal gadol batorah. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que Rabbi Akiva veut dire ici quand il dit que c'est un klal gadol batorah? Un klal, le mot klal veut dire que c'est quelque chose qui englobe, qui est kollel, qui englobe les choses. Si on dit que c'est un klal gadol, ça veut dire que c'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses. Bon, c'est-à-dire ce principe englobe énormément de choses. On dit que Rabbi Akiva ne dit pas que c'est ce qui englobe toute la Torah. Mais c'est Klal Gadol Batorah. Dans la Torah, c'est un Klal Gadol. C'est-à-dire qu'à partir de la réflexion sur Ve'ahavta le'recha kamocha, on va pouvoir déduire. Bon, bien sûr, en s'appuyant sur la Torah, mais on va voir que ça inclut, une fois qu'on nous l'a donné en quelque sorte, ça inclut énormément de mitzvot de la Torah qui sont dites par ailleurs, mais qui en fait forment un tout. Quelque part, beaucoup des mitzvot forment un tout qui est un principe général de la Torah. Et comme la Torah, c'est la parole d'Hachem telle qu'elle est adressée aux hommes, dire qu'il y a un klal gadol ba-Torah, ça veut dire qu'il y a une parole divine, en quelque sorte, c'est là, Ve'ahavta le'recha kamocha, qui englobe énormément d'autres paroles divines. A priori, Ve'ahavta le'recha kamocha, ça concerne uniquement les relations interhumaines. Bon, c'est difficile d'imaginer que dans ce klal gadol, il y a des mitzvot comme qui ont rien à voir avec toutes les mitzvot qui ont à voir avec les korbanot. Est-ce que c'est aussi inclus là-dedans? Est-ce qu'il faut aussi faire un travail pour comprendre comment ces mitzvot qui concernent les korbanot? Mais les korbanot, c'est quoi? Les korbanot, c'est une façon qui m'est permise de m'approcher d'Hachem. Je me suis éloigné d'Hachem. J'ai, dans certains cas, la possibilité de me rapprocher en apportant un korban. C'est-à-dire qu'au lieu que les choses se passent sur mon dos, en quelque sorte, ça va se faire avec un animal qui me représente. Et du coup, je me retrouve de nouveau proche d'Hachem. Alors, est-ce que ça aussi, c'est inclus dans Ve'ahavta le'recha kamocha? Alors, comment ça s'explique, ça? Qu'est-ce que ça voudra dire? Comment dans Ve'ahavta le'recha kamocha, par exemple, est-ce qu'on peut comprendre la notion de korban? On peut aussi dire, de la même manière que tu es soucieux d'apporter un korban, c'est-à-dire de te rapprocher d'Hachem, et tu prends en compte que Hachem accepte ta démarche, il faut aussi accepter que l'autre, quand il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais quand il a fait tshuva, de la même manière qu'Hachem m'accepte, Hachem l'accepte lui aussi. Même si moi, j'ai l'impression que ce qu'il a fait, c'est plus ou moins grave, etc., et que j'ai du mal à comprendre comment lui, on va lui pardonner. Mais en vérité, quand tu réfléchis, tu vois très bien que Hachem te pardonne à toi aussi. Choses qui sont analogues. Donc, on pourrait inclure, par exemple, les korbanot aussi, dans ce klal gadol, la Torah. Bien sûr que, par exemple, ce que j'avais cité avant, le fait de mettre un parapet sur le toit de ma maison, donc on comprend bien que tu dois aimer ton prochain comme toi-même, parce que tu dois veiller à ce qu'il ne puisse pas tomber du toit de ta maison. De même que tu veilles à ce que toi-même, tu ne tombes pas du toit de ta maison. Donc tu ne vas pas dire, ouais, mais je ne suis pas pressé parce que moi, je ne vais pas sur le toit, il y a lui qui y va pour réparer mon chauffe-eau ou je ne sais pas quoi. Bon, quand j'aurai le temps, je mettrai un parapet. Non. Ça doit être aussi impératif pour toi de mettre un parapet pour le cas où il va monter pour réparer ton chauffe-eau que tu mets un parapet quand toi, tu dois monter sur le toit. Donc, en vérité, peut-être que c'est un klal gadol batora qui est plus grand que ce qu'on aurait pu penser. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que c'est Rabbi Akiva qui le dit. C'est-à-dire que quand Rabbi Akiva dit les choses, en général, il dit des choses qui sont surprenantes en général. Il ne dit pas les choses standards. Il dit des choses qui nécessitent une réflexion. Et bien sûr, la première idée, c'est de dire que c'est un klal gadol qui ne concerne que le Ben Adam la Chavero. Mais ce n'est pas vrai. Et c'est aussi les relations de l'homme avec Hachem, parce que, pas seulement ces relations-là, mais parce que, comme moi, il reflète la présence divine dans le monde. Donc, peut-être que c'est terriblement, beaucoup plus englobant qu'on pourrait le penser. Ça, c'est le Ve'ahavta le'recha kamocha, ce que je voulais dire là-dessus. Ensuite, il y a il y a dans le chapitre Kaf, à la suite, au début du chapitre Kaf, à la cinquième montée. Et d'abord Hachem el Moshe les morts, vel bnei Israël Tomar. Dis au Bnei Israël, Ish Ish, mi Bnei Israël ou minager agar bi Israël, un juif ou un étranger qui vit avec les Bnei Israël, donc qui est entré dans le clan Israël, a priori, qui s'est converti, Asher iten mizaro la molech, mot yumat, qui donne, qui met son, sa descendance, il la donne au molech, c'est-à-dire il la passe par le feu, des fois, on entend qu'il brûle complètement, d'autres il le fait seulement traverser le feu sans le brûler. C'est une pratique idolâtre. Cette pratique idolâtre, elle est sanctionnée la peine de mort. Mot yumat. Il doit être mis à mort. Et le peuple lui-même doit considérer qu'il est concerné et ils vont devoir lapider cette personne. Ok. Bon, c'est, tout le monde va devoir s'y mettre, en fait. Tout le monde est mobilisé. Alors, il y a là une pratique qui est inacceptable sur la terre d'Israël, donc il y a une espèce de profanation de la terre d'Israël en faisant ça. Et Hachem dit, Vani etenet panai baishaou, vi chati oto mikerevamo, ki mizaro natan la molech, le man tame et migdashi ou le chalel et shem kotchi. Hachem dit, je vais m'occuper moi-même de ce bonhomme-là. Et je vais, il va être frappé de karet, c'est-à-dire je vais le retrancher du peuple, Israël, parce qu'il a donné sa descendance à Molech, et parce que, avec cette démarche-là, Leman tamet migdashi. Ce faisant, il impurifie mon migdash, sanctuaire donc, ou le chalel et shem kodshi, et il profane mon saint nom. Tout ça parce qu'il fait passer son enfant dans le feu de Molech. Bien entendu, de quoi on parle? C'est un peu compliqué. On vient de dire qu'il va être, il est passible de mort. Ça veut dire que quand quelqu'un est passible de mort, ça veut dire, premièrement, qu'on l'a averti avant qu'il le fasse. On lui a dit, si tu fais ça, tu transgresses cet interdit-là, et tu seras puni de mort, de lapidation. Et lui, il dit, mais je le fais exprès pour ça. Et il agit dans les secondes qui suivent l'avertissement. Donc, vous voyez, c'est assez improbable qu'il y ait deux personnes qui le voient justement faire et qui le mettent en garde et qu'ils répondent, ils leur répondent et puis qu'ils agissent dans le laps de temps minimal qui lui est accordé pour agir, pour qu'on considère qu'il agit en connaissance de cause. Le reste, si ça dure plus longtemps, il pourra toujours dire « Ah, j'ai oublié l'avertissement », etc. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ces peines, elles ont l'air assez académiques. Mais en tout cas, il s'agit de quelqu'un qui a eu l'opportunité de ne pas le faire puisqu'il a été averti. Donc, lui, il passe au tribunal. Maintenant, quand on nous dit que Hachem va lui envoyer du karet, va le retrancher, c'est quelqu'un qui n'a pas été averti. Donc, ça ne relève pas du tribunal. Mais Hachem dit, moi, je m'en occupe. Moi, je vais le punir. Dans la traduction en français là, de Stone, il explique, en fait, qu'est-ce que ça veut dire qu'il profane le Mikdash? Il n'est pas dans le Beth Amikdash. Il n'est pas dans le Mishkan, il fait ça dans la nature. Comment on peut dire qu'il a outimé le Mantamet Mikdashi? Qui profane le nom d'Hachem, je peux comprendre. Le nom d'Hachem, on peut le profaner partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans la traduction française, ils disent que celui qui sert le Molech, il ne fait pas seulement une faute vis-à-vis d'Hachem. Il porte également atteinte à la santé du peuple juif, puisque Chazal disent que le mot Mikdashi, ici, mon sanctuaire, c'est le peuple d'Hachem. C'est le peuple d'Hachem lui-même qui s'appelle Mikdashi. Alors le Ramban dit que cette façon, ce culte de Molech, il dit, lui, dépouille le peuple juif de sa sainteté. C'est pourquoi la Torah déclare que c'est au peuple qu'il incombe de faire appliquer la sentence de mort à l'individu qui l'a porté un tel préjudice. Donc, ici, il y a deux situations. Ou bien ça relève du tribunal parce qu'il y a des témoins, etc. Ou non, sinon, c'est un karet qu'Hachem lui appliquera. Parce que il a, alors d'après ça, il a rendu tamé le peuple. Parce que le mot Mikdash ici, c'est le peuple. Comment est-ce que le mot Mikdash peut faire référence au peuple? Vous vous souvenez, quand Hachem a donné l'ordre de construire le Mishkan, il a dit « Il va soulim Mikdash, le Shachanti Betocham. » Ils me feront un sanctuaire et je résiderai dans le cœur de chacun. Donc, résider dans le cœur de chacun, c'est fabriquer un sanctuaire pour Hachem. Donc, le peuple, lui, est le Mikdash d'Hachem, puisque Hachem réside dans le cœur de chacun. Et puis maintenant, il y a ici quelque chose de très remarquable. « Vim ha'alem ya'alimu ama'aret seteneem min ha'ishahu »« Petito mizaro la molech levilti amitoto » Supposez que la personne qui a passé son enfant dans Molech, ce soit quelqu'un de suffisamment puissant, les gens n'osent pas. Ils n'osent pas lui appliquer la peine, donc personne n'est là pour le mettre en garde. Et donc, tranquille, il ne se passe rien. Il ne va pas passer devant un Bedin. Alors Hachem dit, Im halem ya'alimu ama'aretz et eneem. Si les gens détournent les yeux de cet homme-là, quand il passe son enfant dans le molaire, et que donc il ne le mette pas à mort, c'est-à-dire il ne l'avertisse pas pour le mettre en marche une procédure de tribunal, alors dit Hachem, regardez bien, le samti ani et panai baishaou, alors c'est moi qui m'occuperai de lui. Je mettrai mon visage contre lui, donc je le punirai. Lui ou Mishparto et aussi toute la famille. Donc ça c'est particulier. Toute la famille va être détruite parce que le peuple n'a pas voulu lui appliquer la loi. Hachem va détruire toute la famille. Et tous ceux qui suivent ce bonhomme-là. Le mot, c'est l'isnot, c'est comme s'il y avait une prostitution, comme s'il se prostituait au molaire. Vanef et Chacher Tifne, là, bon, ça c'est autre chose. Donc on voit ici que si les hommes ne s'occupent pas de ce dont ils doivent s'occuper, et que c'est Hachem qui doit faire le job, alors ça se passe encore plus mal pour les hommes. Quelque part, la possibilité de passer quelqu'un, faire passer quelqu'un en jugement devant un tribunal, c'est une façon de régler un problème de façon plus douce que si on laisse Hachem s'en occuper. Le tribunal, bien sûr, il ne peut pas s'occuper de la famille parce qu'il ne connaît pas quelles sont les relations, etc. Mais Hachem qui connaît les relations, il va punir tous les gens qui sont dans la foulée, dans cette démarche, toute la famille. Donc, c'est-à-dire bien plus que ce qu'aurait pu faire le tribunal. Donc, ce n'est pas du tout un service qu'on lui rend, de faire comme si on n'avait pas vu ce qu'il faisait. Ça va seulement aggraver la sanction qui va le frapper, lui et toute sa famille. Ce que je voulais montrer ici, c'est très important. Akadosh Baruch Hu nous a donné la possibilité de juger. Hachem dit, si vous jugez, vous me déchargez de la charge de juger. Et du coup, le Midrash dit, donc je peux m'occuper de vous faire du bien. Sinon, je suis occupé de juger. Ce n'est pas votre intérêt. C'est joli comme formulation. Bon, mais c'est comme ça. Ça veut dire, nous avons la possibilité de juger avec nos moyens incomplets, parce que nous, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. On s'occupe que de la personne elle-même et pas du tout de ce qu'il y a autour. Alors que Hachem, il va sanctionner tous les gens qui sont partie prenante à cette opération de Moler. Voilà, quelques petites choses que je voulais dire sur Parshat Kedoshim.
Shabbat.
Shabbat.